Papa, c'est quoi ces étoiles là-bas?
Alors là, c'est la grande ours qui fait comme une casserole, tu vois.
Ah oui!
Allez, on rentre, il commence à faire froid.
Papa, c'est quoi toutes ces étoiles dans la maison?
Ah, ça c'est les appareils laissés en veille.
Papa, pourquoi on les éteint pas?
Les appareils laissés en veille continuent de consommer de l'électricité. À eux seuls, ils représentent jusqu'à 10% de nos factures. Alors éteignons-les vraiment, par exemple avec une multiprise à interrupteur. Plus de conseils pour faire des économies d'énergie sur mamaisonbleuciel.edf.fr. L'énergie, notre avenir, économisons-la.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
14h, c'est le nouvel horaire de notre rendez-vous quotidien avec Franck Ferrand et avec l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Rendez-vous avec l'histoire, en effet. Rendez-vous aussi avec les histoires, puisque cette année, nous commençons chaque émission par un grand récit, le temps de revivre une aventure ou d'élucider une énigme. D'ailleurs, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire les deux, tout simplement.
Et vous nous parlez de Jeanne Delacroix.
Eh oui, le peintre majeur, l'auteur de La Liberté guidant le peuple, notamment. Il y a eu 150 ans le 13 août que Jeanne Delacroix est mort, c'est donc un anniversaire que nous célébrons aujourd'hui. Et pour cela, j'ai demandé à mon complice Serge Lega d'être des nôtres. Ensemble, nous allons percer les mystères de quelques-uns des plus grands tableaux du 19e siècle. Mais auparavant, c'est une autre énigme que je vous propose, celle de l'identité réelle du père de Delacroix. Est-ce que le peintre était, comme on le dit souvent, le fils caché de Talleyrand? C'est ce que nous allons essayer de savoir.
Et n'oublions pas, Franck, notre nouveau rendez-vous des 5 dernières minutes.
Eh oui, vous avez raison. Tous les jours, désormais, nous remontons aux sources d'une pratique ou d'un comportement. Aujourd'hui, alors que la chasse est en passe de rouvrir un peu partout en France, nous reviendrons, si vous le voulez, sur les origines de ce loisir partagé par près d'1,5 million de nos concitoyens. Vous allez voir que la chasse est un peu l'enfant de la Révolution. Pour le moment, place à l'art, à la peinture et au mystère.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Avez-vous vu Monsieur Delacroix comme il a le teint pâle, pour ne pas dire jaune? Vous avez vu son nez vaguement retroussé et son drôle de rictus et ses paupières tombantes sur un regard là et ce front haut et fuyant et ses pommettes et ce menton? Enfin, cela ne vous rappelle-t-il personne? Cherchez bien. Cela ne vous fait pas songer à Talleyrand? Voilà ce qui se murmurait derrière la main ou à l'abri des éventails dans certains salons parisiens au milieu du Second Empire. La ressemblance physique indubitable, mais aussi toute une cascade de coïncidences, vous allez voir, et de circonstances troublantes, tout ça voulait que le grand peintre, l'une des gloires de son temps, fut l'enfant caché, le fils naturel du grand ministre de Napoléon, de Louis XVIII et de Louis-Philippe, le rejeton inconnu du prince de Bénévent, né Talleyrand Périgord. Delacroix, fils de Talleyrand. Avouez que l'idée ne manque pas de piquant. C'est un peu comme si on apprenait que Cézanne était le fils d'Adolphe Thiers ou Fernand Léger, le fils de Clémenceau. L'un de nos plus grands peintres, fils inconnu de cet homme d'État. Et puis si Eugène Delacroix a été l'enfant secret du diable boiteux, ça veut dire aussi qu'il était l'oncle du duc de Morny, l'homme fort du Second Empire. Pas étonnant qu'on ait trouvé à cette hypothèse quelque chose de fascinant. On peut parler, je crois, d'une belle énigme historique. Alors on va essayer de la résoudre, nous, cette énigme aujourd'hui. À l'origine du doute, à l'origine de l'incertitude sur la paternité de Delacroix, il y a, au moment de la naissance du futur peintre, on est donc au printemps 1798, il y a l'étonnante publicité donnée à la pathologie très intime de son père officiel. Eugène Delacroix est en effet réputé être le fils de Charles Delacroix. Charles Delacroix n'est pas un inconnu, pas du tout. Même tous ceux qui se sont intéressés de près ou de loin à la Révolution française savent que ce Delacroix père a été un révolutionnaire bon teint, député de la Marne à la Convention, partisan de la condamnation à mort de Louis XVI, représentant du peuple à Versailles. Et quand on fait l'histoire de Versailles, je vous prie de croire que Delacroix, il est présent. On le voit pendant toute la Révolution. C'est un homme dont le rigorisme a laissé des traces. En 1797, au moment de la conception d'Eugène Delacroix, ce Charles Delacroix a 56 ans. Faut le noter, hein, c'est plus un jeune homme. Et il a 56 ans au moment de l'opération et donc de la naissance de son fils. Il a quitté depuis peu le portefeuille de ministre des Relations extérieures du Directoire. En fait, il est resté ministre jusqu'à Messidor en 5, c'est-à-dire à l'été 1797. Or, et vous voyez qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, son successeur au ministère des Relations extérieures, rue du Bac, n'est autre qu'un certain Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, devenu, en cette période du Directoire, le citoyen Talleyrand. En compensation, Charles de la Croix a été nommé ministre de la République française près de la République batave, autrement dit ambassadeur en Hollande. Alors attention, parce que c'est toute l'origine de notre affaire. En septembre 1797, l'ambassadeur, qui n'est pas encore parti pour La Haye, ce Charles de la Croix subit une très importante opération chirurgicale. Le praticien, qui est un chirurgien militaire, est un homme célèbre, c'est le fameux Delonne. Or, Delonne, en contradiction avec les principes de la plus élémentaire discrétion, va publier, dès le mois de décembre, le compte-rendu de son importante opération dans une brochure qui est éditée par l'imprimerie de la République et par ordre du gouvernement. Dans cette brochure, dès le titre, figure en toutes lettres le nom de Charles de la Croix. Vous allez comprendre le problème que ça pose quand je vous aurai dit que l'opération en question concernait les parties génitales de Charles de la Croix. Il s'agissait de l'ablation d'une très volumineuse excroissance, on appelle ça un sarcocèle, une tumeur bénigne au testicule qui empêche le patient de procréer. Et oui, l'opération a duré 2h30, entre parenthèses, à l'époque il n'y avait pas d'anesthésie, hein, vous imaginez, et le patient du reste a fait l'admiration des témoins et du chirurgien lui-même. Donc, la délicate opération de Monsieur de la Croix a fait l'objet d'une brochure, illustrée qui plus est. Le chirurgien a par ailleurs fait une communication à l'Institut National, qui à l'époque remplaçait l'Académie, et il va remettre ça dans une ultime publication sur sa grande opération en 1812. On peut donc dire qu'à partir de ce moment-là, le public ne peut plus rien ignorer du sujet.
De l'apprenti sorcier de Paul Lucasse.
Alors vous avez bien compris qu'avant l'opération, Charles de la Croix ne peut pas procréer. Bon. Et après l'opération, en revanche, il peut. Charles de la Croix, en plus, se remet rapidement de l'opération et on dit qu'il est debout très vite. Au bout d'un mois, il se lève. Il put se promener librement le 40e jour et sa cure fut parfaite dès le 60e, écrit le chirurgien dans la fameuse brochure. Il a donc pu rejoindre son poste à La Haye à la fin de décembre 1797. Le Moniteur, le journal quotidien de l'époque, précise que 2 mois après l'opération, Charles de la Croix a retrouvé les avantages de la virilité qu'il avait perdue. Voilà les termes. On peut pas être plus clair, vous avez bien compris. Bon, 7 mois, je dis bien 7 mois après la fameuse opération, la citoyenne de la Croix, donc née Victoire Eubène, qui est la femme de Charles de la Croix, met au monde un fils, Eugène, le futur peintre Eugène de la Croix. L'enfant est venu au monde en France, où Victoire est restée après le départ de son mari, à Charenton-Saint-Maurice, précisément, banlieue parisienne, dans une vaste maison à 2 étages, qui est encore visible aujourd'hui, d'ailleurs, pas très loin de la Marne, dans la commune de Saint-Maurice. On est dans le Val-de-Marne. Si vous allez sur le Street View de Google, vous verrez la maison, on la voit très bien. Et il y a 2 plaques sur la maison, parce que c'est aussi là qu'est mort, en 1903, le biologiste Nocard, qui était un collaborateur de Pasteur. Je ferme la parenthèse. Donc, 7 mois seulement après l'opération, vous avouerez que c'est un peu tôt. Et vous ne pouvez pas empêcher que dans l'entourage, on se pose évidemment quelques questions. Charles de la Croix est-il bien le père d'Eugène ? À l'évidence, non. Car l'enfant est né à terme. Ce qui veut dire qu'au moment de sa conception, son père officiel n'était pas en état de procréer. Mais alors, si Charles n'est pas le père, qui cela peut-il bien être ? Pendant très longtemps, personne ne s'est vraiment prononcé sur la question. Et puis voici qu'en 1881, donc quand même beaucoup beaucoup plus tard, 18 ans après la mort du peintre, on publie des souvenirs de Caroline Jobert, qui est une femme de salon, une amie des poètes, la marraine de Musset, et voilà ce qu'on trouve sous la plume de Madame Jobert. Je cite « À propos du peintre de la Croix, faut-il répéter ce qui quelquefois se disait à voix basse, que cette pâleur d'une teinte jaunâtre et ce sourire bridé tout particulier pouvaient faire songer au prince de Talleyrand? Était-ce là l'effet de ce qu'on appelle communément un regard? Du temps du directoire, le prince, donc Talleyrand, avait beaucoup contribué à faire nommer ministre aux affaires étrangères le père de Delacroix, dont la mère était charmante. En faut-il davantage pour alimenter la médisance? Au moment du centenaire de la mort d'Eugène Delacroix, donc il y a 50 ans, en 1963, l'hypothèse, on peut le dire, avait fait florès, et nombreux sont les auteurs qui ont pris pour argent comptant le bruit relaté par Madame Jaubert. Il rappelle que Talleyrand était un familier des Delacroix, et qu'il aurait même eu un faible pour Victoire Eubène. Cela dit, Talleyrand avait un faible à peu près pour toutes les femmes un peu jolies qui y approchaient, hein. L'essentiel de cette thèse repose sur une ressemblance physique. Ressemblance assez troublante, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Talleyrand et Delacroix. Le critique d'art Moreau Nélaton qualifiait cette ressemblance d'inquiétante. Les contemporains ont relevé l'air de prince de l'artiste, sa distinction, son port de tête, vous savez, sa parfaite éducation, quoique ça n'est peut-être pas de naissance, sa courtoisie un peu hautaine, cette espèce d'élégance, ce grand air que possédait aussi Talleyrand. On compare les portraits, bien entendu, des deux, et là, il faut reconnaître que ça se ressemble. Les nez sont légèrement retroussés. Il faut dire aussi que la mère d'Eugène Delacroix avait elle-même le nez retroussé. Le dessin des lèvres, comme ça, un petit peu amer, vaguement méprisant, la finesse du sourire, le regard très froid. Il y a quelque chose, il faut bien le dire. Or, si le peintre ressemblait à Talleyrand, en revanche, il était très différent de ses deux frères et de sa sœur. Alors ça aussi, ça peut arriver dans les familles, mais... Alors, il faut dire aussi que les deux frères et la sœur étaient nés bien auparavant, avant l'infirmité de Charles. Ils étaient nés entre 1779 et 1784. Et je vous rappelle que Eugène Delacroix est né en 1798. Vous allez me dire, ça ne prouve rien, mais... Tout ça ajoute au mystère, évidemment. D'autant plus que, et ça c'est un fait, Talleyrand s'est montré... particulièrement malveillant envers Charles Delacroix, un peu comme le ferait un amant jaloux. Après tout, il a pris sa place quand même au ministère des Relations extérieures et certains se sont posé la question, en plus d'avoir pris le portefeuille de Charles Delacroix, est-ce qu'il n'aurait pas pris sa femme? Politiquement, par exemple, on sait que Talleyrand s'était forcé de faire retomber sur Charles Delacroix la responsabilité de l'expédition d'Égypte, qu'il avait lui-même préconisée au passage, mais enfin il n'était pas ça près lui. Puisque la brochure du chirurgien Delonne a été publiée par l'imprimerie de la République, on s'est même demandé s'il ne faudrait pas voir derrière cette publicité pour le moins malencontreuse la patte du diable boiteux. Disons-le, la vérité semble beaucoup plus simple. Le chirurgien Delonne était assoiffé de réclames, comme on disait à l'époque, hein, de publicité. Ce n'était pas la première fois qu'il livrait en pâture à la curiosité du public le nom de ceux qui avaient reçu ses soins. Il s'était même rendu coupable de ce genre de violation du secret professionnel dans un livre qui s'appelait « Cure radicale de l'hydrocèle ». Cette opération sur un ministre était pour lui une aubaine. Il prétendait même que cette intervention devait, je cite, « trouver sa place dans les fastes de la médecine française ». Donc il le faisait savoir. Tout de même, Talleyrand avait tant d'influence. Du reste, se sont demandés les partisans de Talleyrand, les partisans de la thèse qui voudraient que Talleyrand soit le père de Delacroix, est-ce que les facilités dont le jeune peintre a bénéficié au début de sa carrière ne seraient pas la preuve de la présence dans l'ombre d'un père très puissant ? Tout se passe, écrit Louis Gillet, comme si une providence mystérieuse, sans se dévoiler jamais, conduisait la barque du jeune homme. On a parlé d'une protection miraculeuse. Au moment de la première grande exposition de Delacroix, il expose son tableau Dante et Virgile aux Enfers, en salon de 1822, la critique est d'ailleurs assez hostile, et pourtant, Adolphe Thiers dans le Constitutionnel fait un éloge enthousiaste de la toile. « Je ne crois pas m'y tromper, monsieur Delacroix a reçu le génie », écrit Thiers. Mieux que cela, le gouvernement de Louis XVIII achète le tableau de cet inconnu de 24 ans, et en plus un inconnu de 24 ans qui est quand même le fils d'un révolutionnaire célèbre. 2 ans plus tard, le gouvernement va encore acheter le massacre de Sillau. Il faut bien reconnaître que si pour l'instant on est dans le faisceau de convergence et dans les coïncidences, il faut bien admettre que ces coïncidences sont un peu troublantes.
C'était la marche au supplice de la damnation de Faust de Berlioz.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire, vous nous parlez Franck d'Eugène Delacroix. C'est la suite de votre récit.
Et oui, on se demande donc si le père d'Eugène Delacroix, son véritable père, ne serait pas le célèbre Talleyrand. Je dis Talleyrand, alors je précise tout de suite pour pas qu'on ait trop de... Parce que ça s'écrit Talleyrand, mais la tradition veut qu'on dise Talleyrand. Voilà, je précise une fois pour toutes. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que si Delacroix était secrètement protégé, lui-même ne s'est douté de rien. C'est-à-dire qu'on l'a protégé sans qu'il le sache. On ne l'a jamais vu remettre en cause le fait qu'il ait été le fils de Charles Delacroix. Dans plusieurs passages de son journal, il parle de son père dans les termes les plus respectueux, même avec une certaine fierté. Par exemple, le 12 septembre 1822, il est chez son frère aîné, au Louroux, dans l'Indre-et-Loire. Il écrit « Nous avons parlé ce soir de mon digne père. Me rappeler plus en détail les différents traits de sa vie. Mon père, en Hollande, surpris dans un dîner avec les directeurs de la République batave par les conjurés. Il harangue les soldats ivres et brutaux, sans la moindre émotion. L'un d'eux le met en joue et le coup est détourné par mon père. Le gouvernement français veut lui donner une escorte. Il répond qu'il refuse l'escorte des traîtres. » Le jeune peintre mentionne par ailleurs avec admiration le courage dont a fait preuve son père lors de la fameuse opération chirurgicale. Il formule aussi dans son journal un certain nombre de résolutions, par exemple « Pense à ton père et surmonte toute légèreté naturelle ». Chez son cousin Berryer à Augerville, il écrit « Berryer m'a lu les fragments du manuscrit de mon père où il raconte le premier service que mon père lui a rendu. Mon père se trouvait dans la situation de disposer de tout sous Turgot. Son salon d'attente était rempli de cordons bleus, de grandes dames, de solliciteurs de tous étages. Cette disposition lui occasionnait une foule d'attaques à cause, dit Berryer le père, de son austère probité. Plus tard, sous la Convention, Berryer le père, très compromis, est sauvé par lui. » Il est content, vous voyez, il est fier de son père. À l'opposé, il faut dire que le journal de Delacroix ne contient aucune mention de Talleyrand. Juste une anecdote qu'il tenait de Berryer le 22 septembre 1822. Puis en 1847, après une soirée chez Thiers, justement, Delacroix note que le maître de maison, qui était un grand historien, en plus d'être un homme politique, vous savez, a parlé de l'avènement de Napoléon Ier à l'Empire. Et Thiers aurait mentionné Soult, Cambacérès, Fouché, mais pas Talleyrand. On peut imaginer que Thiers a parlé de Talleyrand, mais en tout cas, Delacroix ne le note pas dans son journal. Le nom de Talleyrand apparaît subrepticement dans un extrait des mémoires du baron de Menneval, recopié par Eugène Delacroix dans un carnet. Mais enfin, vous voyez, c'est pas grand-chose. Et puis alors, on connaît l'anecdote que relate Maurice Barrès dans Le Mystère en pleine lumière, le testament d'Eugène Delacroix. Je cite « La tradition nous rapporte qu'un jour, on disait à Delacroix « Que n'étiez-vous hier à l'ambassade d'Angleterre ? Vous auriez vu Talleyrand causant avec Wellington. Quel tableau !» Il aurait répondu « Pour un peintre, ce n'est qu'un homme en bleu à côté d'un homme en rouge. » Vous avouez qu'on serait quand même bien en peine de déceler là-dedans la moindre intention cachée du peintre. Et tout au contraire, l'ensemble de sa vie démontre son attachement à son père officiel. Le 8 janvier 1846, on a une lettre d'Eugène Delacroix à une certaine Mme de Forget, donc on est là après les obsèques de son frère. Il confie à sa cousine son intention de réunir la dépouille du défunt à celle de son pauvre père, dit-il, dont le monument a été détruit et abandonné. Je désirerais maintenant qu'un monument simple rappelât leurs deux noms. Vous aimiez trop votre père, cher ami, pour ne pas comprendre mes sentiments dans cette circonstance. Oui, pas de doute. Et 10 ans plus tard, en octobre 1856, Delacroix accomplit un voyage au pays d'origine de la famille, de la famille Delacroix, à Givry en Argonne. Et voilà ce qu'il écrit. « Ce lieu que je ne connaissais que par les récits de ceux que j'ai aimés a réveillé leurs souvenirs avec en moi une douce émotion. J'ai vu la maison paternelle il y a fort longtemps que je désirais faire ce petit voyage. »
C'est un extrait de l'opéra Lucia de L'Arme Mort et on a reconnu évidemment la voix de Pavarotti.
Et oui, là c'est l'Éliseur d'amour en fait de Donizetti, mais on va bientôt avoir à l'opéra un Lucia de la Mer Mort qui je crois est inauguré, enfin la première a lieu jeudi prochain je crois. Donc on est dans l'actualité en même temps dans cette émission, Céline. Alors disons-le clairement, donc pour Delacroix, il n'y a aucune forme de doute. Son père est bien son père et il n'y a absolument pas de problème. Alors évidemment, tout ça n'est pas sans poser un certain nombre de questions. D'abord, cette histoire des protections occultes. Comment se fait-il que Delacroix ait été comme ça protégé pendant sa jeunesse? Le succès rapide d'Eugène a fait beaucoup jaser, bien entendu. Mais il faut savoir quand même que le baron Gros, qui était un membre pour le moins influent du jury au salon de 1822, s'était d'emblée enthousiasmé pour son tableau Dante et Virgile aux enfers. Il avait même prodigué personnellement ses encouragements au peintre. Le baron Gérard était un ancien ami de la famille Delacroix. Il avait reçu Eugène dans son atelier et on a la preuve qu'il continuait à fréquenter le salon du baron par la suite. Et on sait que Gérard était un ami de Thiers et c'est Thiers qui va faire la première critique positive en faveur donc de Delacroix. Quant à la bonne fée, si je puis dire, celle qui peut-être s'est penchée sur le berceau de ce jeune peintre, ça pourrait tout simplement être la duchesse de Berry. On sait, grâce à un document des Archives nationales, que Eugène Delacroix a déclaré au procureur général près de la cour royale de Colmar, je vous explique pas dans quelles circonstances, c'est un peu compliqué, en tout cas, il a expliqué qu'il ne faisait de lithographie que pour la duchesse de Berry, à laquelle il devait, dit-il, de la reconnaissance. Il est établi qu'il avait aussi de sérieux appuis dès ses débuts et même qu'il en aura, entre nous soit dit, bien après la mort de Talleyrand, hein, puisque la carrière de Delacroix continuera bien longtemps après la mort de Talleyrand, plus de 30 ans. Donc sur un plan biographique, les liens entre Talleyrand et la famille Delacroix seraient peut-être un peu plus convaincants. Sauf que là aussi, quand on regarde de très près, on se rend compte que c'est pas si évident. Talleyrand n'aurait pas fréquenté le salon de Madame Delacroix au moment où il mettait tout en œuvre pour ravir le portefeuille de son mari. On ne l'aurait pas vu à Saint-Maurice dans la maison des Delacroix. Et puis par ailleurs, et ça c'est un fait, Talleyrand n'a jamais reçu Eugène Delacroix. Sa présence, la présence du peintre rue Saint-Florentin à Paris ou à Valençay n'a jamais été signalée. On n'en a aucune trace dans le journal de Delacroix, ni ailleurs du reste, ni dans aucun des écrits ou des lettres de Talleyrand, pas non plus dans la chronique de la duchesse de Dinot. Donc, on peut dire quand même que Eugène Delacroix, s'il avait eu le moindre soupçon, ou si Talleyrand avait voulu le rencontrer, si ça avait été son fils, il aurait peut-être aimé le voir quand même. On sait que Delacroix allait chez la comtesse Potocka, chez la duchesse de Breuil, qu'il était constamment chez Victor Hugo, chez Viollet-le-Duc et tout, et il n'aurait pas été chez Talleyrand, avouez que c'est un peu étrange. Alors certes, reste la ressemblance physique. Mais on oublie souvent de préciser que les traits caractéristiques qui chez Delacroix rappellent Talleyrand sont d'abord tout simplement les traits de Victoire, les traits de sa mère. Quant aux prétendues convergences morales, alors là, permettez-moi de vous dire qu'il y avait quand même pas mal de divergences. Delacroix était aussi timide et solitaire que Talleyrand était un homme social. Talleyrand adorait la politique et on sait à quel point Delacroix la détestait. Ils étaient quand même foncièrement différents. Alors vous avouerez qu'après tout ça, il reste assez peu de place pour une reconnaissance posthume en paternité. Reste le mystère de la naissance de Delacroix. Car s'il est extrêmement improbable que le peintre ait été le fils de Talleyrand, il est encore plus improbable qu'il ait été celui de son père officiel. Et cela, Eugène avait peut-être fini par le comprendre lui-même. En effet, tout laisse penser que sur le tard, il a éprouvé un doute quant à la paternité de Charles Delacroix. André Joubin, qui était l'éditeur du journal de Delacroix, possédait un exemplaire de la brochure de l'opération effectuée par Delonne sur Charles Delacroix. Or, il affirmait que cet opuscule avait appartenu à Eugène Delacroix. Ça expliquerait peut-être pourquoi, à la toute fin, le peintre devait renoncer à se faire inhumer auprès de son frère et de son père au cimetière de la Chartreuse de Bordeaux. Il a préféré le Père Lachaise à Paris, où vous pouvez toujours lui rendre visite. Et nous allons parler de Delacroix, de son œuvre, de son génie, de l'importance de cet homme dans l'histoire de la peinture en compagnie de Serge Legas. Bonjour Serge.
Bonjour Franck.
On peut dire que ces problèmes de paternité n'ont pas tellement influé sur le génie de Delacroix, hein, ça n'a pas pesé.
Du tout, puisque comme vous l'avez très bien indiqué, Delacroix lui-même n'en parle absolument jamais et que le doute pour lui ne se posait pas vraiment, en tout cas jusqu'à la fin de sa vie, comme vous venez de l'exposer.
La radio, ce sont aussi des images et vous allez nous le prouver dans un instant, Serge Legas.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire avec Eugène Delacroix à l'honneur aujourd'hui. Avec vous Franck Ferrand et votre invité Serge Lega, historien d'art, conférencier des musées nationaux.
Alors Serge, on a beaucoup parlé du père de Delacroix, de son père officiel en tout cas, Charles. On a très peu parlé de la mère, j'ai parlé de Victoire Eubène. C'est un nom quand même qui a dû faire dresser l'oreille des amoureux de beaux mobiliers, puisque c'est les célèbres ébénistes Eubène. Hein.
Absolument, et c'est même une double paternité, puisque c'est le thème du jour, puisqu'en fait Victoire Eubène est également apparenté à la famille des Riesner. Voilà, donc on est vraiment dans le grand monde des ébénistes français.
Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ça par cœur, le plus célèbre, les plus grands meubles de l'histoire du mobilier français, c'est le grand bureau qui a été fait pour Louis XV et qui a été fait justement par Eubène et Reisner.
Absolument.
Il a été bien élevé, on va dire, ce Delacroix. On a compris que son père est un ministre, un ambassadeur, c'est pas du tout n'importe qui. Comment se fait-il qu'il s'oriente vers une carrière artistique à cause de ses ancêtres ébénistes justement?
Alors, il y avait des ancêtres très ébéniste. Il y avait également un de ses oncles qui était peintre et qui sera évidemment son mentor au niveau de la peinture. Et c'est lui qui va le pousser vers l'atelier de celui qui sera le professeur de Delacroix, c'est-à-dire Pierre-Narcisse Guérin. Et c'est vrai que Delacroix, qui a une très solide éducation, puisqu'il a été formé dans le très excellent lycée impérial. Le lycée impérial, c'est de nos jours le lycée Louis-le-Grand.
Oui, c'est Louis-le-Grand.
C'était le grand lycée, évidemment, où Delacroix reçoit une très solide éducation. Et donc, par la suite, en 1815, il entre dans l'atelier du peintre Guérin. Ce qui est aussi assez étonnant.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que là, on est en pleine période néoclassique. On adore le style à l'antique, les mœurs romaines, etc. C'est la grande période du triomphe de David, par exemple.
C'est totalement l'école davidienne.
Or,
tout à fait.
Delacroix, lui, sera l'incarnation de l'école la plus opposée à ça, qui est l'école romantique, qui n'est pas encore tout à fait née à l'époque.
Pas encore vraiment née. Et ce sera d'ailleurs la rivalité, la haine presque au couteau que Ingres, le grand élève de David, aura pour Delacroix, puisque ça sera l'opposition entre les deux grandes écoles, l'école néoclassique et l'école romantique.
Alors, Delacroix, c'est évidemment les grosses taches de couleur, l'empattement sur la toile, une espèce de tourbillon de forme, de matière et de luminosité, on peut dire. Hein. Il y a quelque chose de très chatoyant, il y a quelque chose comme un patchwork pictural dans l'art de Delacroix. Et ça apparaît d'emblée dès ces deux premières grandes toiles qui vont faire sa célébrité, la barque de Dante et le massacre de Sio. Alors d'abord la barque peut-être, parlez-nous de ça Serge.
La barque c'est justement un tableau complètement étonnant qui apparaît et qui est vraiment une sorte de d'ovni dans le monde de la peinture de l'époque quand il est présenté en 1822. Vous en avez parlé tout à l'heure, Franck, les critiques sont extrêmement hostiles. Il y a quelques rares critiques comme Thiers, qui est vraiment relativement seul. Guérin, le professeur de Delacroix, est absolument effondré par le tableau de son élève. Et c'est vrai que Delacroix va réaliser une œuvre qui est une œuvre dans un sens dramatique, avec ce thème de la mort, Dante et Virgile aux enfers, la cité infernale de Dite.
C'est sombre
flammes,
comme toile. Je l'ai là sous les yeux. Il y a quelque chose
c'est de
très...
la peinture tourmentée. Voilà, c'est de la peinture très libre. Techniquement, l'école davidienne, c'est la peinture finie, c'est la peinture soignée, c'est la peinture au fer lisse.
On pense à Ingres aussi, par
complètement,
exemple.
Complètement. Qui est le grand élève, d'ailleurs, de David. Et Delacroix, au contraire, c'est une furie, c'est une grande liberté technique au niveau de sa peinture.
On voit un ciel déchiré, couleur de soufre. On voit des flots qui ont l'air d'être littéralement soulevés, qui transportent des corps dénudés dont les chairs sont j'allais dire flasques, mais en tout cas pas du tout classiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors les deux personnages centraux sur l'espèce de barque qui tangue singulièrement sont harnachés d'espèces de guenilles médiévales. Tout ça devait horrifier les amateurs.
Et surtout qu'en plus, Dante et Virgile sont horrifiés eux-mêmes par ce monde infernal. Il y a un détail extraordinaire dans le tableau, puisqu'enfin ils sont entourés par les damnés, et les damnés voient en cette barque un espoir d'échapper aux enfers. Et il y a un des d'année qui prend le bois de la barque par les dents pour essayer de s'accrocher à cet espoir de sortir des enfers. Il mord le bois de la barque. C'est des thèmes absolument révolutionnaires. Alors quand même une petite chose. Delacroix avait la chance d'avoir l'antériorité de Gros dont vous avez parlé, Franck, et de Géricault. Géricault a vraiment été le peintre qui a mis en place cette esthétique nouvelle. Et alors chose tout à fait étonnante, Guérin, le grand peintre néoclassique, a d'abord eu Géricault comme élève et ensuite Delacroix.
C'est-à-dire que cet homme aura formé deux grands romantiques.
Les deux plus opposés à sa technique, et d'ailleurs Delacroix comme Géricault remettront assez nettement en cause l'enseignement de Guérin.
C'est assez terrible finalement pour Guérin, c'est ce que vous nous racontez là, et passionnant en même temps. Alors, la deuxième grande toile, ce sont les massacres de Sio. Ça c'est important parce qu'on est dans si j'ose dire, dans l'actualité. Et ça aussi, ça n'est pas tellement bien vu à l'époque.
Oui, et c'est justement, on est loin des Grecs et des Romains de l'Antiquité. On est dans un monde qui est le monde contemporain. Et je dirais d'ailleurs que c'est peut-être la seule cause contemporaine qui ait enthousiasmé les Romantiques. Les Romantiques, c'est ce qu'on a appelé la génération
désespérée. L'indépendance de la
Grèce. La Grèce, c'est vraiment une cause qui les passionne. C'est la Grèce qui veut obtenir son indépendance par rapport à l'Empire turc.
C'est ça, l'Empire ottoman.
Et tout ça commence en 1821. Ça aboutira en 1830 à la naissance d'un État indépendant qui est la Grèce, telle que nous la connaissons. Et la Grèce est donc une cause qui enthousiasme toute la génération romantique. Les écrivains en premier, les peintres en second. Soyons francs, ce sont d'abord les écrivains qui prennent le parti de la Grèce.
Alors on se rappelle évidemment les prises de position d'un Victor Hugo, par exemple, bien entendu.
Bon,
Chateaubriand, bien sûr. Et puis alors en Angleterre, c'est Lord Byron, le chef de file.
Alors il est même le plus touchant, puisque Lord Byron ira mourir sur place. Byron va mourir à Missolonghi. Delacroix fera un très beau tableau sur la Grèce, sur les ruines de Missolonghi, un tableau qui lui est au musée de Bordeaux, alors que les massacres d'Ossure sont au Louvre. Et Byron mourra en 1824 à Missolonghi, l'année même où les massacres d'Ossure sont présentés à Paris. Il y a vraiment un côté très contemporain.
Vous me disiez, Serge, qu'il fait un voyage en Angleterre d'ailleurs à ce moment-là.
Il fait un voyage juste après. Il part en 1825 en Angleterre. Il sera d'ailleurs un très très grand amateur de l'Angleterre. Il y a une anglophilie à l'époque très forte. Et d'ailleurs, ça développera chez Delacroix un goût qu'il avait techniquement parlant, c'est celui de l'aquarelle. Les aquarellistes anglais vont beaucoup compter pour lui. Et les peintres. Alors, puisque Franck, vous révélez toujours des mystères, voilà encore un mystère pour la peinture. C'est justement dans les massacres de Sion, on s'est toujours posé une question. On a beaucoup dit que le fond du tableau avait été retouché à la dernière minute par Delacroix. Alors que le tableau est déjà présenté au Salon de 24, on considère que le fond aurait été retouché. Et on voudrait que le fond ait été retouché parce que Delacroix a vu présenter à Paris des tableaux du peintre Constable, le peintre anglais, et que devant la liberté technique de Constable au niveau du paysage, Delacroix a voulu moderniser son tableau à la manière anglaise. Et il va en Angleterre en 25.
Entre parenthèses, un tableau acheté tout de suite par l'État, là encore. Hein. C'est
là
quand même
aussi,
étrange. L'État
des choses
fait preuve là,
très
de...
étonnantes. J'ai même retrouvé, les massacres de Sion est acheté pour 6000 francs de l'époque, qui sont pour un peintre qui est un peintre pas du tout connu et très critiqué, complètement étonnant. Ce sont des prix qui sont en plus des prix très forts.
Alors, l'un des tableaux les plus célèbres de Delacroix, si l'on met de côté la liberté guidant le peuple, dont on va parler dans un instant, mais c'est évidemment la mort de Sardanapale, grande toile du Louvre qui fait la joie des enfants notamment. Je trouve que c'est plutôt bon signe, moi, lorsqu'un tableau plaît aux enfants. Quand vous emmenez des jeunes au Louvre, ils s'arrêtent devant ce tableau parce qu'alors, évidemment, c'est une symphonie de... C'est une horreur ce qui se passe sur cette toile.
C'est l'apogée du romantisme français. D'ailleurs, Delacroix n'ira jamais plus loin. La liberté guidant le peuple sera un tableau qui représente une sorte d'infléchissement par rapport au romantisme.
Presque un retour au classicisme.
Complètement.
Un peu.
La mort de Sardanapale, alors déjà, on est tout à fait dans l'anglophilie, puisque c'est un drame de Byron que Delacroix va illustrer en peinture. Et alors, l'histoire est extraordinaire. Un tyran qui est assiégé dans son palais et qui décide de mourir entouré de tout ce qu'il a le plus aimé. Alors, je suis désolé, c'est très misogyne. À égalité, ses chevaux, ses chiens, ses femmes.
Il fait égorger ses femmes.
Et ses objets précieux. Et alors là, c'est une apothéose funèbre. D'ailleurs, le tableau est uniquement dans les tons de rouge et jaune, puisque le lit de Sardanapale est sur un bûcher et que tout ça sera pris par les flammes. Donc c'est déjà les couleurs de l'incendie, le rouge et le jaune, qui doivent dominer.
Vous imaginez les esclaves en train de dégorger les femmes de ce Sardanapale, et tout ça fait tache, si je puis dire, dans le paysage. On peut dire qu'il aura fait scandale, Delacroix, objectivement, Serge. Ce n'est pas, il ne passe pas inaperçu en son temps.
La mort de Sardanapale, c'est sûrement le plus grand des scandales. D'ailleurs, toutes les toiles de Delacroix, on vient de le dire, sont achetées par l'État, celui-là n'est pas acheté. C'est quand même le seul, il sera uniquement dans les collections du Louvre en 1921. Donc évidemment, beaucoup plus tard que les autres, parce que le tableau va très loin. Et alors la critique se déchaîne. Si vous me le permettez, j'ai retrouvé des petites critiques littéraires de l'époque qui montrent l'humour des journalistes. Devant cette folie funèbre, le journaliste écrit « Monsieur Delacroix a commandé 2 voitures à l'entreprise de déménagement pour enlever le mobilier de Sardanapale, 3 corbillards pour les morts et 2 omnibus pour les vivants. » Alors les omnibus ne servent à rien puisqu'il n'y aura pas de vivants.
Il n'y aura pas de survivants.
Le palais sera pris, tout le monde sera mort et tout sera une apothéose funèbre.
Du bruit, de la fureur, du mouvement, des couleurs, de la lumière et surtout une extrême liberté de touche, de ton et de pensée. Nous parlons tout simplement de la Delacroix cet après-midi sur Europe.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
14h-15h, Franck Ferrand.
Oui, un nouvel horaire également, hein, 14h-15h pour au cœur de l'histoire. On parle cet après-midi, Franck Ferrand, d'Eugène Delacroix.
C'est l'horaire du café, de la réflexion, de la narration sur Europe 1, ça tombe très bien. Alors il y a un homme qui a beaucoup admiré Delacroix et qui a écrit de beaux textes à son sujet, c'est Baudelaire. Notamment Baudelaire va prononcer, un peu après la mort de Delacroix, en 1864, une grande conférence à Bruxelles. Alors je n'ai pas le temps ici de vous la lire, cette conférence, mais j'en ai mis des extraits, de beaux extraits, sur le site francferrand.com. Donc vous pouvez aller lire les, on peut dire, l'espèce d'hommage extraordinaire qu'a pu faire Baudelaire de Delacroix. D'une façon générale, et bien qu'assez sauvage de tempérament, c'était un homme qui vivait au milieu de ses contemporains les plus illustres. Il les a tous connus et fréquentés, Serge.
C'est un personnage qui a eu, je dirais, deux vies sur un plan social. Il a d'abord été, quoiqu'il méprisait un peu la vie mondaine, il fut un mondain, indéniablement, à une époque. Il fréquentait les grands salons parisiens où il a rencontré tous les écrivains de l'époque, Stendhal, Mérimée. On parle toujours de George Sand, ce sera un tout petit peu plus tard. George Sand arrivera un petit peu plus tard, mais il ira par la suite rendre visite à Nohant, à George Sand. Donc il fréquente les salons, même si dans son journal, encore une fois, il a quelques pics sur l'atmosphère délétère des salons parisiens. Et puis, la fin de sa vie changera. Le fait de la maladie va le rendre plus solitaire, plus indépendant, et c'est vrai qu'à ce moment-là il va un petit peu se replier sur lui-même et la fin de vie sera moins mondaine et plus, j'allais dire, un petit peu séparée du contact avec les autres.
Alors on a tous à l'esprit évidemment ce billet de 100 francs, hein. C'était la liberté guidant le peuple, avec cette femme au sein dénudé, ce drapeau tricolore, ces gamins des rues, ces gavroches si je puis dire. C'est un tableau mondialement célèbre et qui a bien entendu donner à Delacroix une image assez différente de ce qu'il était réellement. Il faut peut-être le dire, ça,
c'est
quand même.
Tout à fait. Je pense que c'est le tableau le plus paradoxal parce que c'est un tableau qui, évidemment, représente un mouvement révolutionnaire, les fameuses Trois Glorieuses en 1830.
Et la révolution de 1830 qui a porté Louis-Philippe au pouvoir.
Et on a le sentiment que Delacroix est donc lui-même un soutien de la Révolution. Alors, c'est pas du tout le cas. Il a absolument pas participé aux événements révolutionnaires. Dans ses écrits, il n'est pas forcément toujours très généreux face au peuple. Il parle souvent plus de populace que de peuple. Donc en faire un révolutionnaire au sens le plus convaincu du terme n'est sûrement pas le cas. Et c'est vrai que dans ce tableau, on a créé beaucoup d'images et de légendes. Entre autres, le personnage qui est dans le tableau, le personnage jeune en haute forme avec un fusil à la main, on a longtemps voulu y voir un autoportrait de Delacroix, ce qui ne correspond pas. Ou alors c'est un autoportrait extrêmement
très sublimé,
oui. Mais qui correspond pas. En plus, Delacroix n'était vraiment pas présent. Et vous avez évoqué Gavroche. Alors Gavroche, on le retrouvera chez Hugo, mais s'il y a un lien, il est d'abord dans le tableau et c'est Hugo qui le reprend par la suite.
Entre parenthèses, c'est le fameux tableau qui a subi mauvaise fortune récemment.
Oui, c'est un tableau qui était le point final de la présentation du nouveau musée du Louvre à Lens et qui a subi effectivement une attaque par une jeune femme déséquilibrée.
Bravo, nous dit Cédric, aux experts du Louvre Lens qui ont superbement restauré la liberté de Delacroix après le tag délictueux.
Hein, tout à fait. Alors, heureusement pour le tableau, ça c'est quand même la grande chance d'avoir des tableaux en bon état et bien restaurés, mais c'est vrai qu'un tag sur un tableau dont les vernis sont en bon état, évidemment, n'attaque pas trop la matière, donc c'est un tableau qui a pu être libéré de ce tag relativement vite.
Alors, on a vu que Delacroix était le fils d'un ministre des Affaires étrangères, enfin on disait à l'époque relations extérieures, et d'un ambassadeur. C'est un homme qui a aimé le voyage, et on ne peut pas évoquer le romantisme d'un Delacroix sans évoquer l'Orient, Orient réel et sublimé, du reste.
Ah, c'est sûrement une des grands tournants de la carrière de Delacroix et de sa vie. C'est ce que l'on appelle de façon un peu réductrice le voyage au Maroc, puisqu'en fait Delacroix est également passé par le sud de l'Espagne et par l'Algérie. Mais le but du voyage était effectivement le Maroc. Il y part en janvier 1832. Il revient au mois de juillet de la même année. Et le voyage au Maroc, c'est tout d'abord une mission diplomatique. Alors ça, c'est une chose qu'on faisait beaucoup à l'époque. Dans les missions diplomatiques, des artistes étaient là pour commémorer les événements, faire des carnets regarder de croquis, de dessins. Et Delacroix va donc accompagner le jeune comte de Mornay, qui était l'ambassadeur de France auprès du sultan du Maroc. Et l'idée était très simple, en simplifiant beaucoup. C'est à l'époque où la France mène ses grandes entreprises coloniales avec l'Algérie. Et on a envie que le Maroc n'intervienne pas et soit neutre. Donc en fait, la mission est celle-ci, obtenir la neutralité du sultan du Maroc.
On se rend compte que ce jeune homme de très très bonne famille, finalement, qu'il ait été ou non protégé par Talleyrand, et je pense qu'on doit pouvoir dire qu'il ne l'a pas été, objectivement, n'en a pas moins constamment fréquenté les cercles les plus officiels. Il a été proche, j'allais dire du pouvoir, mais plutôt des pouvoirs peut-être.
Et il a été particulièrement proche du pouvoir de Louis-Philippe.
C'est
justement,
ça, hein,
on peut dire que quand cette monarchie de Juillet arrive au pouvoir, Delacroix se retrouve avec tout un ensemble de liens dans l'entourage de ce nouveau monarque
constitutionnel,
et ça explique entre autres pourquoi c'est lui qui est choisi comme artiste pour accompagner l'ambassade du comte de Mornay. Et c'est un voyage absolument extraordinaire, parce que c'est peut-être l'un des points de départ de ce que l'on a appelé l'orientalisme au 19e siècle. En simplifiant beaucoup, on parlait jusque-là beaucoup d'exotisme, c'est-à-dire le goût pour un monde fantasmé lointain. Au 18e siècle, c'était la Chine, Boucher pouvait faire des chinoiseries de fantaisie. Là, on est dans un monde où l'Orient est maintenant un Orient qu'on observe.
Ah, plus réel. Hein.
C'est différent. Ouais. Ce qui sera évidemment pas du tout le cas de Ingres. Quand Ingres peint le bain turc, c'est le fantasme masculin de ces femmes.
On est dans la prolongation du 18e siècle.
J'ai d'ailleurs, petite chose abusante, je sais pas si vous connaissez la phrase de Claudel sur le bain turc d'Ingres, qui montre quand même une certaine misogynie de Paul Claudel. Il disait que le bain turc lui faisait penser à une boîte d'asticots renversée.
Oh mon Dieu.
Toutes ces corps de femmes levés les uns sur les autres, ça montre chez Claudel une misogynie assez forte.
Mais en même temps, un regard assez perçant.
Ah, assez perçant aussi.
C'est vrai que vu de loin, le tableau est étrange, le tableau d'Ingres.
Totalement étrange. Et alors là, on est dans le fantasme. Delacroix, au contraire, qui peindra lui aussi un harem, puisque là, ça sera le harem du Bey d'Alger, les femmes d'Alger. Et ça, c'est un tableau où il nous montre, alors plus du tout, des corps nus, mais c'est des femmes habillées qui attendent.
Sublime tableau.
Qui est un sublime tableau. Ah, oui. Et qui aura une postérité fabuleuse.
Et quel coloriste, entre parenthèses.
C'est la grande force de Delacroix.
Oh là là,
ce que Baudelaire, vous parliez, Franck, de Baudelaire. Baudelaire l'a particulièrement bien compris. Baudelaire considérait qu'avec Delacroix, la couleur était une couleur qui devenait une couleur psychologique. C'est-à-dire que la couleur n'est pas simplement là pour un élément visuel. La couleur doit soutenir les pulsions humaines. On parlait tout à l'heure de Sardanapale, l'incendie, donc on travaille le rouge, le jaune. Il faut qu'il y ait une adéquation des couleurs avec l'intention et la psychologie aussi bien des personnages que du peintre.
Dans la conférence dont je parlais tout à l'heure, que j'ai mis sur le site, là, il commence Baudelaire en disant que dans la vie, parfois lorsqu'on a un accident, quand on se fait très mal, on reste pendant quelques temps hébété avant de prendre conscience de la douleur ou de la gravité de la chose, et que la mort de Delacroix a provoqué sur la société française la même chose, dit-il. Hein. C'est quand même, on n'a pas conscience, je pense, de l'importance de ce bonhomme sur un plan esthétique. Il a fait beaucoup bouger nos références. Il a fait évoluer nos regards, bien entendu.
Moi, je me méfie toujours du terme de perdre la modernité, mais c'est vrai qu'avec Delacroix, on peut vraiment parler d'une revendication qui sera celle de beaucoup d'artistes à venir, et ce sera le cas. Alors, par exemple, moi, je trouve très, très, très révélateur le grand texte de Paul Signac. Quand on sait que Signac a été un des grands peintres du néo-impressionnisme, ce qu'on appelle un peu à tort le pointillisme, eh bien, Signac a appelé son ouvrage « D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme ». Le point de départ, c'est Delacroix pour lui, c'est lui qui libère la couleur.
Alors, vous nous avez montré un Delacroix assez officiel, qui est bien vu par le gouvernement de Louis-Philippe, sauf que Louis-Philippe est renversé en 1848, décidément, on disait ça hier, c'est bien, parce que comme ça, d'un jour sur l'autre, on revient, on finit par fixer des repères. Louis-Philippe est renversé en 48, c'est la Deuxième République, on élit comme président de la République Louis-Napoléon Bonaparte, qui va devenir Napoléon III, changement total de régime, mais pas changement de statut chez Delacroix, puisqu'il est également bien vu par le Second Empire. Hein.
Complètement. Et un exemple qui est un exemple très, très clair à ce niveau-là, c'est le fait des grandes commandes officielles. Alors, ce serait peut-être un peu fastidieux de toutes les indiquer,
oui,
mais c'est
évidemment
quand même extraordinaire d'imaginer que Delacroix a décoré notre actuel Assemblée nationale, le Palais Bourbon à l'époque, d'abord là, évidemment, sous le gouvernement de Louis-Philippe, puisqu'on a et le décor de ce que l'on appelait à l'époque le Salon du Roi, qui est de nos jours le Salon de la Croix et de la Bibliothèque, bibliothèque. On a également le décor de la bibliothèque du Luxembourg, l'actuel Sénat.
Du Sénat, oui.
On a le décor de la galerie d'Apollon au Louvre, qui est une merveille. Hélas, un décor à jamais perdu. Le Salon de la Paix, l'hôtel de ville, qui a été incendié sous la Commune et qui a donc disparu. Et puis, les décors religieux, ne serait-ce que la merveille que sera la chapelle des Saints-Anges à Saint-Sulpice.
Ah oui,
donc,
par exemple,
il y a
tout
un ensemble de décors.
Il y a quand même un grand décor qui a été peint entre 1835 et 1837, donc pour Louis-Philippe. Ce sont des tableaux pour la célèbre galerie des batailles du château de Versailles. Alors, je ne vais pas dire lesquels, parce que ça mérite vraiment l'expérience. Moi, je l'ai fait avec des amis. C'est vous entrez dans la galerie des batailles, vous promenez dans cette galerie des batailles, vous verrez, il y a un tableau de Delacroix. Normalement, vous n'allez pas mettre très longtemps à le trouver, puisque au milieu du barbouillage général, si je puis dire, j'espère que je ne choquerai personne, hein, parce que franchement, les espèces de peintures au kilomètre de la Monarchie de Juillet, on est quand même couché tôt. Et au milieu de tout ça, vous avez un tableau qui explose de couleurs et de vitalité, et comme par hasard, c'est la toile de Delacroix.
Mais c'est un peu toujours le phénomène de Delacroix. Je parlais tout à l'heure de la galerie d'Apollon au Louvre. C'est extraordinaire d'imaginer qu'au milieu de cette galerie qui est peinte au XVIIe siècle, au XVIIIe, il y a l'explosion colorée de Delacroix au milieu et qui est l'œuvre que l'on remarque par rapport à toutes les autres.
Il sera finalement élu à l'Institut tout de même.
Alors ça, c'est aussi
tout de même parce que ça n'a pas été évident à cause des classiques justement.
Sept candidatures malheureuses. Il est élu à la 8e fois. Il est élu en 1857 et il est élu grâce aux voix des musiciens. Les peintres continuent dans l'ensemble à voter contre lui.
Parce que la musique Ingres, aussi est devenue.
Il y a surtout Ingres. Ingres le déteste et d'ailleurs Ingres aura une phrase très nette quand il apprend que Delacroix est enfin élu à l'Institut. Il dit eh bien maintenant la peinture française est morte. Donc la haine durera jusqu'au bout.
Alors entre 1822 et 1847, il n'y a pas d'écrit de Delacroix, mais pour tout le reste, on a son célèbre journal. Ça, c'est très précieux pour les historiens d'art.
Très important. C'est un journal qui est commencé en 1822, qui s'arrête donc en 24, qui reprend en 47 jusqu'à sa mort, et qui est une source de renseignements, alors des renseignements assez concrets, mais aussi des théories sur la peinture tout à fait remarquables. Entre autres, c'est là où il met au point sa théorie des couleurs, ce que l'on appellera un peu plus tard les liens entre couleurs primaires et complémentaires que les peintres impressionnistes, néo-impressionnistes utiliseront tant. Delacroix les met déjà en place et montre déjà les rapports des couleurs entre elles.
Alors Serge Lega, la question qui fâche, qui était le père de notre Delacroix ?
La médecine pourrait aurait peut-être pu nous aider. Moi, c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai trouvé très séduisant cette idée de Talleyrand qui était au fond cette sorte de protection occulte dont vous avez si bien parlé, Franck, tout à l'heure, et qui pourrait être une sorte d'image tutélaire. Je pense qu'on est maintenant vraiment revenu.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui ne s'est pas marié, n'a pas eu d'enfant.
Non, absolument.
Ça, c'est quand même
Lui a une vie qui sera simplement à la fin de sa vie avec sa gouvernante. Alors là, qui est un personnage très abusant. Petit détail, il vivra avec cette génie Le Guillou, qui sera la femme qui va un peu le protéger à la fin de sa vie, mais il n'aura pas de femme et pas d'enfant.
Ça, avouez que c'est une pierre de plus dans le jardin de ceux qui nous disent circuler, il n'y a rien à voir.
Absolument.
Une vie quand même un peu étrange et placée sous le signe de l'énigme que celle de Delacroix.
Oui.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Oui, au cœur de l'histoire avec le rendez-vous des 5 dernières minutes. Franck, et samedi dernier, s'est ouvert la Chasse en Alsace et en Lorraine.
Et oui, alors c'est la première des ouvertures de l'année. Les autres régions vont suivre peu à peu. Et c'est l'occasion, je crois, puisque nous revenons comme ça aux sources à la fin de chaque émission maintenant. C'est le moment de rappeler que, autrefois, dans l'ancienne France, la chasse était un privilège réservé essentiellement aux seigneurs sur l'étendue de leurs terres. Elle était en principe interdite aux roturiers. Je dis en principe parce qu'évidemment, les bourgeois qui possédaient des fiefs ou des seigneurs avait quand même le droit de chasser plus ou moins. Le braconnage était très sévèrement puni. Vous savez que c'est en 1669 seulement, donc sous Louis XIV, que les faits de braconnage ne sont plus passibles de la peine de mort. Mais jusque-là, on risque la peine capitale quand même. Alors, pour protéger les cultures et les paysans, on interdisait de chasser dans les terres cultivées entre le 1er mai et les récoltes. Et c'est ce qui explique que les gens les plus riches ont commencé à se réserver des forêts, à se réserver des chasses privées, tout simplement des domaines de chasse. C'est l'origine de ces domaines de chasse. Et puis, la Révolution va littéralement populariser tout ça. L'abolition des privilèges le 4 août 1789 donne à chacun le droit de chasse. Mais attention, maison, à condition d'être propriétaire, d'être possesseur des terres, ou à condition d'avoir obtenu le consentement du propriétaire. Ce qui veut dire que le droit de chasse pendant longtemps va rester un attribut du droit de propriété. Et tout ça jusqu'à Louis-Philippe, jusqu'en 1844. À ce moment-là seulement, le Parlement adopte une solution de compromis qui permet à tous de chasser à condition qu'on ait l'accord tacite du propriétaire. Mais en contrepartie, évidemment, pour pas que ce soit totalement la pagaille, on va instaurer le permis de chasse qui est délivré annuellement par la commune du chasseur. Un permis qui vaut cher à l'époque. 25 francs, c'est beaucoup d'argent à l'époque. Ce qui veut dire que la chasse devient, à la fin du 19e siècle, un signe plutôt de distinction sociale. Ça va évoluer par la suite. Il y aura une nouvelle démocratisation après la Seconde Guerre mondiale. Mais vous savez, d'ailleurs, en parlant de démocratisation, vous savez qu'on ne chasse plus officiellement au sommet de l'État. Les présidents Pompidou et Giscard d'Estaing chassaient beaucoup, par exemple, mais depuis 1995, le comité des chasses présidentielles est inactif. Il n'y a plus de chasse à Marly ni à Rambouillet, et à Chambord, ce n'est plus la présidence qui fait les invitations. Donc, c'est plus vraiment le président qui invite. Je terminerai par cette citation de Maurice Genevoix. « La chasse n'est rien si elle n'est d'abord poésie », écrivait l'auteur de Rabolio. Rabolio qui a eu le prix Goncourt en 1925. « Poésie de la quête, de la poursuite et de l'aventure, sympathie instinctive et profonde avec la branche porteuse d'indices, l'herbe foulée, l'humus où s'imprime une empreinte, avec ce qui se cache, se glisse, se dérobe et s'évade, mais laisse flotter derrière soi une odeur, un duvet, un flocon que l'épine accroche et qui demeure tiède au soleil, vivante au souffle passager. » Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, au demeurant très controversé, de la chasse, vous pouvez vous rendre notamment au musée de la chasse et de la nature, à l'hôtel de Guénégo, c'est rue des Archives, vous savez. Ça fait 45 ans que ce musée existe. Depuis une dizaine d'années, il est devenu musée de France, il en a le label. Et non seulement c'est une visite très instructive, mais en même temps très intéressant, très beau, puisqu'on est dans un des plus beaux hôtels particuliers de Paris.